Bonjour, bienvenue dans notre 37e émission dans notre musée imaginaire. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un artiste exceptionnel du XXe siècle, Lucio Fontana. C'est un. Peut-être certains parmi vous ont eu la chance en 2024 à Rhodes, au musée Soulages, de voir une rétrospective de Fontana. Les deux peintres étaient très liés, ainsi que leurs épouses. Et c'est une. Je vais vous amener vers quelque chose d'exceptionnel. Alors, Lucio Fontana, il est né le 19 février 1899 à Rosario, Argentine. Il décède le 7 septembre 1968 à Comaglio, en Italie, à 69 ans. Et c'est un artiste qui va nous amener vers l'abstraction. Il se forme en Argentine, puis en Italie, dans le mouvement italien le Novecento, le XXe siècle. C'est un mouvement artistique italien formé à Milan en 1922 autour d'un groupe d'artistes réunis à la Galleria Pesaro par le critique Margherite Sfarfatti. C'est un mouvement qui associe tradition avec des éléments de la Renaissance plus des éléments de la nouveauté. Et Fontana va s'en détacher à partir de 1930. Le mouvement, il y aura une branche traditionnelle, alors que Fontana, lui, va faire une recherche beaucoup plus personnelle, beaucoup plus radicale. Il va se rapprocher vers l'abstraction. La particularité va se déployer donc en Argentine avec un premier manifeste et les années en Italie. Il déploie donc un héritage argentin-italien. Et c'est un peintre qui va faire des va-et-vient perpétuels entre l'Italie et l'Argentine. Je vous l'ai dit, il est né en 1899 en Argentine. Son père est un architecte italien, sculpteur. Il part en 1891 en Argentine. Je vous rappelle que l'Argentine a une colonie italienne très importante. Son père va rencontrer sa femme d'origine italienne. Et son père, Luigi, est sculpteur. Il a un atelier de sculpture monumentale. Lucio, son fils, donc, va se former dans l'atelier de son père. Et dans cet atelier, on fait des sculptures monumentales et en particulier des sculptures funéraires. Nous avons une importante colonie italienne en Argentine et souvenez-vous des sculptures, des monumentales funéraires des cimetières italiens, notamment à Milan. En 1905, il voyage et part vivre à Milan avec son père. Il fait des études. 1917, engagé militaire, Première Guerre mondiale, il est réformé pour blessures graves et il va s'inscrire en 1927 à Milan, à l'Académie des Beaux-Arts de Brera. 1921, retour en Argentine, vous voyez tous ces mouvements de va-et-vient de voyage, il y reste 6 ans et en 1925, donc, il expose ses premières sculptures, je vais en citer deux, Mélodias en Argentine, portrait féminin évoquant un petit peu Rodin. Et un autre monument, Monumento a Joana Blanco, est un monument funéraire. C'est une sculpture réaliste, sculpture plastique féminine. Cette Joana Blanco, c'est la Madone des enfants pauvres. C'est une œuvre, première œuvre connue de Fontana. Elle est située au cimetière de San Salvador à Rosario. Et il va faire des sculptures funéraires, nous verrons plus tard, au cimetière de Milan, des sculptures monumentales comme celle de monument à Ettore de Médicis, est une sculpture funéraire à Milan, est une commande alimentaire qui lui permet de se faire connaître. Nous y revenons. Donc il repart à Milan en 1927, il fait ses fameuses sculptures du cimetière, sculpture monumentale de la ville, et il fait des études donc aux Beaux-Arts à Brera. En particulier, il va être dans l'atelier d'Adolphe Wild, école du marbre. Adolphe Wild, c'est le sculpteur le plus important de cette période et sera diplômé en 1930 avec une œuvre, L'Aurige. L'Aurige, 1928, c'est une sculpture en marbre qui nous ramène à l'Antiquité, à l'Aurige de Delphes. Et Fontana dira: « Je suis à Milan depuis quelques jours et j'ai déjà l'impression de renaître à une vie nouvelle. » Il fera un autre. Dans cette Aurige, donc, est une référence antique. Il reprend des éléments du sculpteur Wild, musculature travaillée, bandeaux, pose affectée. C'est un marbre très poli. Les yeux sont sans orbite. Il y aura aussi un autre auriche, un peu plus tard en bronze, d'une grande modernité, avec une surface plane, accrochant la lumière. Le visage, par contre, là, est sans détail. On dirait un masque. Yeux sans orbite. Influence très forte pendant ces années du Novecento. Mais il va continuer d'exposer à Buenos Aires. Il aura quelques œuvres pour le régime fasciste. Et en 1933, il fera beaucoup de nus, notamment des nus féminins. Et puis, un premier contact avec un artiste extraordinaire, Fausto Melotti, qui est un sculpteur-peintre, influencé par Wild. Et Melotti est l'un des plus grands artistes de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre en Italie. En 1930, Fontana change de style. Il est influencé par un travail sur l'archaïsme en sculpture, et je vous cite une œuvre, Uomo Nero, U-O-M-E-O, qui veut dire homme en italien, Nero, 1930. C'est un plâtre, une patine patinée noire, présentation nouvelle. C'est une œuvre qui est proposée comme telle. Normalement, on a un modelage en plâtre transformé en marbre ou en bronze, mais là, l'œuvre reste patinée, noire, c'est un plâtre. Une autre composition, Campione Olimpio Nico, 1932, athlète ou atleta in attesa, c'est-à-dire en attente, c'est un Gesso Colorato bleu, c'est-à-dire un plâtre coloré d'un athlète qui s'appelle Verratti. Une autre œuvre, Il Fio Sianatore, Pescador, 1933-1934, le harponneur en français, c'est un plâtre doré et cet aspect doré va sacraliser le pêcheur. Nous retrouverons ses œuvres au Museo de Novecento, donc du XXe siècle, à Milan. Donc c'est l'art italien du XXe siècle. Une autre œuvre, la Signora Seduta, Jeune fille assise, 1934. Là aussi, c'est un gesso, un plâtre colorato. Scène de genre quotidienne, corps doré, vêtements en noir, dimension spatiale du doré. Et puis, il va exposer à nouveau vers les années 1930 à la galerie milanaise El Milione. En 1930-1931, je cite deux ou trois œuvres, le torse italique, terre cuite émaillée, c'est une polychromie. La figura a la finestra, personnage donc à la fenêtre, c'est une œuvre très importante, je vous suggère de la regarder, figura a la finestra. C'est une terre cuite polychrome de 1931. Le personnage est de dos, avec un corps particulier, ligne de la colonne vertébrale jusqu'aux fesses, grande structuration de la composition, couleur vive, contraste du blanc. Autre œuvre, figure mère, terre cuite polychrome. Les Amanti dei Piloti en 1931, c'est une terracotta, influence des couleurs et influence aussi de Matisse pour la forme de la femme. Une œuvre Tavoletta Graffita en 1931, c'est une abstraction, gesso, plâtre en italien, colorato et graffito, et là il va toucher à l'abstraction. En 1934, il passe le cap, il va vers l'abstraction. Et nous avons plusieurs sculptures que nous avons baptisées. En 1934, autre structura astrata avec un fil de fer et argile. Et puis, en 1935, il va fonder le groupe des abstraits italiens, au nombre de 7, à Milan, à la Galerie Il Milione. Et ça sera la première exposition en Italie de ce type. En 1935, il adhère au groupe français fondé par Herbin, un groupe abstraction-création, pour défendre le non-figuratif. Ce groupe réunit plus tard des artistes de toute l'Europe, notamment Mondrian, Kalinsky. Et en 1939, ce groupe va s'appeler Réalité Nouvelle sous l'influence de Robert et Sonia Delaunay. N'oublions pas que Fontana a une grande activité de céramiste. Il va poursuivre son action vers l'abstraction. Il ne détermine pas sa pratique artistique entre figuration et abstraction, mais en 1937, rencontre à Paris avec Brancusi et Miro. Il quitte la France, il retourne en Italie en 1938, il repart en Argentine en 1940, il enseigne à Buenos Aires et ses étudiants vont rédiger avec lui un manifeste, le Manifesto Blanco, en 1946. Ce manifeste sera le précurseur du mouvement spatialiste. En décembre 1947, donc c'est le premier manifeste spatialiste, l'art ne dure pas, la matière est mortelle. Alors, c'est là l'intérêt de cette émission, quelles sont les œuvres abstraites de Fontana. Je vous invite à voir le site à Milan de la Fondation Fontana. Alors, le spatialisme, qu'est-ce que c'est ? La peinture intègre l'espace, la lumière, le mouvement, des moyens aussi techniques. L'abstraction, c'est le non figuratif, travaille à travers la couleur, à travers les jeux de formes, et le spatialisme né en Argentine en 1946 avec le Manifesto Blanco, mais c'est à Milan en 1947 qu'on établit la véritable création du spatialisme, 48, deuxième manifeste du spatialisme. La notion du temps et de l'espace est très importante. Je cite Fontana, « Nous voulons que le tableau sorte de son cadre, que la sculpture quitte sa cloche de verre. » Et Fontana va se revendiquer comme l'héritier du futurisme. Et en 1949, scandale, c'est la première toile percée. Oui, vous avez bien entendu, la première toile percée. Et ses œuvres prendront des noms « Concetto Spaziale ». À partir de 1950, il y aura plusieurs œuvres appelées, intitulées « Concetto Spaziale ». Conception, conceptualiser l'espace et notamment sur la toile. Donc nous voyons, c'est un double geste transgressif. Pas de figuration, donc c'est très équinoclaste. Et surtout, on va percer la toile, on va l'entailler avec une lame de rasoir, un poinçon, un cutter. Refus de la toile comme un écran, l'œuvre n'est pas descriptive, elle invite un ailleurs dans l'espace et le temps, elle ne décrit pas, elle l'évoque, la valeur des matériaux prévaut sur le geste. Le fond, il n'y a pas de trace de peinture. Utilisation aussi de pierre, verre, sur la toile, les morceaux de pierre posés sur la toile répondent aux trous percés, et nous allons avoir ainsi une série d'œuvres qu'on pourra intituler sous le nom de baroque, avec, on va étudier deux œuvres, Concetto Spaziale à l'Inferno, l'enfer, et Concetto Spaziale, le Paradiso, le paradis. Donc ce sont des toiles qui sont quadrillées de perforations, vigueur des mouvements de matière mêlant l'huile et les techniques mixtes, paillettes, sable, avec souvent des fragments de pâte de verre, tout créant un effet de mouvement, c'est saisissant. Donc je reviens à deux exemples, Concetto Spaziale, l'Infermo en 1956 et Concetto Spaziale, le Paradiso 1956. Ce sont des huiles avec des trous sur toile, technique mixte avec du verre. On voit donc des matériaux, huile, verre. Ces matériaux créent des effets de surface, éléments chromatiques, importance du doré qui nous renvoie au baroque, au sacré du monde céleste. Ces toiles ont un format particulier. Le châssis est différent, châssis hexagonal, donc c'est un format novateur. Opposition entre le relief de la pâte. Des deux titres dont je vous ai parlé, ce sont Concetto Spaziale, ce sont des réflexions spirituelles et sont extrêmement présents dans l'œuvre de Fontana. Ils concrétisent la percée de la toile dans ses œuvres. Dans la Concetto Spaziale, nous avons donc un cycle de plusieurs toiles, gestes abstraits, très organisés, harmonieux, signifiant, signifié dans le concept. Si nous prenons l'exemple de l'œuvre La Concetto Spaziale Attese, qui veut dire attente en italien, là il ferait une série de toiles en 1959 avec des entailles, fente verticale sur surface monochrome, ouverture donc vers l'infini. Et il est vrai que ces fentes aussi ont un sens érotique, une référence au sexe. Fontana dira, en 58, « Mes entailles sont par-dessus tout une expression philosophique, un acte de foi dans l'infini, une affirmation de spiritualité. » Dans les années 50, l'expérimentation de matériaux innovants tels que les néons, les lumières ultraviolets, les peintures fluorescentes l'amènent à créer des installations avant-gardistes. Et j'ai envie de dire que Fontana est peut-être un précurseur du pop-art. Il s'inscrit dans un art informel, nom donné en 1951 par un critique français sur la non-figuration, c'est l'art informel. Donc, il reprend le futurisme, l'aéropeinture, l'art dans l'espace. Il va défendre l'importance du synchronisme avec son temps, utilisation de matériaux contemporains. C'est une idée plastique nouvelle, avant-gardiste, tout en défendant l'héritage futurisme. Je termine par cette citation de Fontana. « Je perce, l'infini passe par là, la lumière passe, il n'est pas nécessaire de peindre, tout le monde a cru que je voulais détruire, mais ce n'est pas vrai, j'ai construit, je n'ai pas détruit. » Voilà, j'espère que cette émission vous a beaucoup intéressé. Nous continuerons la semaine prochaine avec un grand peintre, peut-être le plus grand peintre, avec Goya. Merci, bonne journée.